Vous avez choisi de nous emmener sur Terre. Terre, c'est T-E-R, dans une cité, un village, au milieu d'un lac qui s'appelle Bakourtil. C'est comme ça que ça se prononce ?
Bakourtil, oui, c'est le nom de ce village qui est en fait en deux parties, Bakourtil et Haut-Courtil, la partie basse étant au pied d'une espèce de forteresse qui a un côté médiéval, qui est inspiré du reste de certaines cités d'antan.
Et donc effectivement ce monde quasi désertique, avec des colonies d'humains, un peu comme ça, vous venez de le dire, même la mode de vie est un peu médiévale, c'est quoi? C'est un monde alternatif? Quel monde avez-vous imaginé?
On a imaginé un monde qui interroge le lecteur, précisément comme vous le faites, c'est-à-dire où sommes-nous ? Personne ne le sait. Je ne peux pas trop vous répondre parce que la clé est donnée en fin d'album et que ce serait un petit peu gâcher le plaisir. On est sur un monde qui ressemble à notre Terre, à ce que fut notre Terre, à une forme de Moyen-Âge, effectivement, de société un petit peu à l'ancienne, les campagnes d'antan, et il y aura une suite de surprises qui vont amener à remettre en cause les informations qu'on a perçues jusqu'alors. On va par exemple trouver des objets qui n'ont rien à voir avec ce passé. Une fusée Tintin telle que vendue dans les librairies spécialisées qui fait son apparition dans une cave. On trouve également une guitare Fender. On trouve il y a un certain nombre d'objets qui ne devraient pas avoir leur place là. Alors où sommes-nous? C'est la grande question. Mais comme je vous dis, j'y réponds pas.
Bon, alors, on suit effectivement les pérégrinations de Maître Pipe, c'est un pilleur de tombes, et c'est en pillant les tombes qu'il va découvrir, en lieu et place de cadavres ou de momies, un homme vivant qui ne parle pas, effectivement, il est amnésique, inoffensif et beau.
Il a ni vêtements, ni parole. Il est totalement vierge. Il est comme une pierre, comme un caillou. Et on se rend compte que c'est à partir du moment où il va récupérer un langage, qu'il va pouvoir s'exprimer, qu'il va récupérer la mémoire, qu'il va récupérer son identité. Donc c'est une forme de quête identitaire. Et ce personnage, c'est ça qui m'a bien plu dans la construction du récit, c'est lui qui raconte l'histoire à la première personne. Donc il va au départ avoir une expression extrêmement réduite, ne comprenant rien à rien. Et petit à petit, avec le langage qui vient, ces interrogations déjà prennent forme. Et puis derrière, ces interrogations plus lointaines sur son identité, et même au-delà de son identité, sa fonction. Parce qu'on se rend compte qu'il n'a pas surgi là, dans cette tombe, comme vous le disiez, par hasard. Il a un rôle à jouer. Quel rôle est-ce? Certains, dans les parties correspondant aux hiérarchies religieuses qui dominent le village, se demandent s'il ne s'agirait pas d'une forme de messie, de prophète, de quelqu'un qui aura un message à délivrer pour faire quelque chose des populations qui sont là. Il a un rôle à jouer vis-à-vis de ces populations, mais quel est ce rôle? Tout le monde se tourne vers lui et lui-même ne le sait pas.
Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a vraiment des mains d'or parce qu'il répare tout ce qu'il touche. Là, il a des pendules, des grille-pains, des réveils matins, peut-être même une télé. Et c'est merveilleux, ça brouille énormément les pistes parce qu'on est soi-disant dans un monde médiéval et d'un autre côté, il y a un moment merveilleux où surgit le son et l'image. Et on se rend compte que c'est pas le Moyen-Âge.
Ah, tout à fait. C'est une forme de Moyen-Âge qui aurait déjà visité le futur. Il y a un paradoxe là. Effectivement, son nom de main d'or est parfaitement justifié parce qu'il est susceptible de faire redémarrer des quantités d'engins qui sont oxydés, qui sont fatigués, usés. Il bricole un petit peu et ces mécaniques repartent. Et parmi ces mécaniques, il y en a une notamment là que vous évoquiez, qui est une forme de machine qui va entre le projecteur et l'hologramme qui fait ressurgir des scènes du passé. Du passé, point d'interrogation, vu qu'on va assister à une partie de la bataille d'Angleterre avec des commentaires de Churchill, le 11 septembre, et même des éléments que nous, en tant que lecteurs de 2017, ne connaissons pas. On parle de la destruction de la Joconde et d'une toile de boucher. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Donc, on arrive sur une période très, très bizarre. Quoi. On est dans une forme de période médiévale, le Moyen-Âge, qui a une connaissance, qui a récupéré des éléments concernant notre époque et même des éléments concernant ce qui est sans doute au-delà de notre époque, dans notre propre futur. Donc là, il y a un moment... Moi, je me suis amusé à créer une forme de vertige. Je trouve ça formidable, de se laisser prendre par quelque chose et de douter.
Est-ce que c'est de l'héroïque fantasy?
Non.
Non,
je ne suis pas d'accord avec vous.
Non, mais dites-moi.
Non, parce que ça me semble plus grave que de la fantasy. Il y a toute cette interrogation sur l'identité qui est une forme d'inquiétude, peut-être pas d'angoisse, mais d'inquiétude. Et puis l'avenir même de cette société dont on ne sait toujours pas où elle est et quel est son positionnement, quels sont les enjeux du récit. Ça va arriver petit à petit. Donc je vois plus que de la fantaisie, et ce n'est pas automatiquement héroïque. Je ne mets pas en scène des héros, ce ne sont pas, en tout cas pas des super-héros avec des collants d'opérette. Ce sont des gens qui nous ressemblent à nous-mêmes ou à nos voisins, et c'est pour ça, je pense, que la quête identitaire du personnage principal a une certaine force, parce que chacun peut s'identifier à ce personnage. L'amnésie n'est pas quelque chose que j'invente, il y a plein de gens qui en souffrent, et c'est quelque chose d'absolument terrible de ne plus savoir qui on est, d'où on vient et quel sens tout cela peut-il avoir.
Donc, ce n'est pas de l'héroïque fantasy, c'est quoi?
Ben justement, c'est ça qui en fait la singularité, c'est que ça peut tenir effectivement de tel ou tel genre.
Vos références, Rodolphe?
Ben mes références, comme je vous le disais, mes références, c'est Rodolphe. J'ai lu de la science-fiction, mais ça fait bien 30 ans que j'ai pas lu un seul roman de science-fiction. J'ai vu Star Wars 1 et 2, je crois. Je suis pas un lecteur, je suis pas un consommateur, je suis pas un fan de science-fiction. Même si j'anime d'autres séries dans lesquelles il y a une part de science-fiction, comme Centaurus qu'on fait avec Léo et Jean Gétov, mais je ne suis pas adepte d'un genre et je ne développe pas une culture dans un genre donné. J'ai choisi simplement le domaine des étoiles parce que sur Terre, TE2RE cette fois, tout est à peu près balisé. Avec les satellites, maintenant, il n'y a plus un coin qui est caché dans lequel on peut inventer une espèce de Terre inconnue à découvrir. Il y a une transposition qui est faite de la Terre aux étoiles, parce que, et on le voit très clairement, le vaisseau qui traversait les mers pour découvrir un continent inconnu, maintenant va traverser le ciel pour découvrir une galaxie inconnue. Il y a une transposition, et ça s'appelle des vaisseaux, tous les deux. Bon, vaisseau spatial, mais c'est très proche du vaisseau terrien, en réalité.
Alors, les éléments architecturaux, les vêtements, effectivement, tous ces détails, parce qu'il y a énormément de détails. Est-ce que c'est vous qui les avez proposés à Dubois ou est-ce que effectivement vous lui avez laissé libre cours pour choisir ses décors?
Quand une collaboration se passe bien, c'est une forme de jeu de ping-pong qui s'instaure. C'est-à-dire que j'envoie des éléments, il les regarde, les étudie, il s'en absorbe et me renvoie la lecture que lui-même en fait. Et moi-même, je repars dessus. Par exemple, il y a dans le récit le personnage de la grande prêtresse Bess Dorlan, qui est une très belle femme, qui a un rôle important dans l'histoire, mais qui est quand même modeste. Et lui, il lui a donné une telle force, un tel poids, une telle beauté également, que je me suis... que ça m'a... influé sur, j'étais en train d'écrire la suite au moment où j'ai reçu ces définitions de personnages, que ça a influé moi-même la destinée que je donnais à certains d'entre eux, et notamment à cette femme. Donc il y a vraiment un chassé-croisé, un ping-pong, c'est ça, on se renvoie la balle étant le récit, et on l'enrichit à chaque fois.
On va parler effectivement des prêtres, ils sont inquiets, pourquoi ?
Les prêtres sont souvent inquiets. Il y en a même qui en font un petit fonds de commerce, je pense, l'inquiétude, la mort, tout ça. Donc, oui, là, on a... il y a une forme de transposition. Je ne pars pas en guerre contre qui que ce soit, etc. Mais simplement, on n'invente pas une histoire à partir de rien du tout. On l'enrichit à travers sa propre histoire et ce qu'on voit autour de nous. Donc, il y a un petit clin d'œil, un petit peu ironique, peut-être, à certaines religions, en tout cas, à ce qu'elles ont été. Et là, ces prêtres sont en même temps c'est eux qui dirigent, c'est les instances non seulement morales mais politiques et militaires de l'ensemble des deux Ménils, le haut et le bas. Et donc, ils sont extrêmement inquiets quand cet étranger qui va vite développer une forme de charisme, et puis qui a ce mystère, d'où vient-il que, bon, et il se trouve correspondre à un psaume ancien dans lequel il y a un verset qui parle d'un inconnu qui arrive nu et sans langage. Enfin, c'est dit en des termes un petit peu plus alambiqués. Et cet inconnu a un rôle, va emmener les populations vers un autre univers qui sera. Et avec le côté opaque souvent de ce genre de texte, mais il prête à des interprétations qui peuvent inquiéter les religieux. Les religieux, en principe, ont le monopole d'un savoir qui remonte, un savoir ancestral. Et cet individu qui arrive perturbe leur jeu. Est-ce qu'il correspond directement à ce verset? Est-ce qu'il... Donc, une grosse suspicion et ils en ont peur. Donc, bon, c'est vrai qu'on peut trouver des parallèles avec l'histoire du Christ et des religieux de son temps, par exemple. Mais bon, je me suis... c'est des clins d'œil, simplement. C'est pas le centre du récit n'est pas là.